L'une des particularités de l'enseignement de Jésus était de s'exprimer avec des mots, des images qui pouvaient choquer ceux qui l'entendaient. À l'heure actuelle, on dirait que Jésus était le spécialiste des punchlines. Vous savez, ces images, ces mots qui choquent. Le but de l'enseignement de Jésus était d'attirer l'attention, que ces paroles, ces mots restent vraiment gravés dans les esprits et touchent les cœurs. Et Jésus n'a pas été quelqu'un qui a cherché à être lisse, à être bien vu par tout le monde, entre guillemets. Mais ses propos ont été particulièrement choquants. Par exemple, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Qui sont ma mère et mes frères ? Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Il y aurait plein d'autres exemples encore à citer. Et nous continuons ce matin notre série sur l'évangile de Marc. Et le texte sur lequel nous allons nous pencher ce matin fait sans aucun doute partie des paroles les plus choquantes de Jésus. Et avant de lire ce texte qu'on trouve en Marc 9, versets 42 à 50, je vous invite simplement à prier ensemble pour que Dieu nous parle encore ce matin. Oui Seigneur, merci pour ce culte. Merci parce que tu nous as devancés et tu as voulu parler à nos cœurs déjà à travers tout ce qui a été partagé. Et Seigneur, ma prière c'est que ce matin encore tu puisses poursuivre ton œuvre dans nos vies, dans nos cœurs Seigneur, pour nous rendre toujours plus conformes à l'image de ton Fils Jésus-Christ, qui est notre modèle suprême. Seigneur, interviens encore dans nos vies ce matin. Amen. Marc 9, versets 42 à 50. Vous verrez que dans le texte que je vous présente, il y a certains mots qui s'entrecrochaient. Ça ne change pas du tout le sens du texte, c'est simplement que plusieurs manuscrits n'ont pas ces mots qui apparaissent dans certains manuscrits, simplement. Mais vous verrez, en fait, c'est des répétitions, donc ça ne change rien du tout au texte en lui-même. Donc Marc 9, verset 42 jusqu'au verset 50. « Mais si quelqu'un devait faire tomber dans le péché l'un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait bien mieux pour lui qu'on lui attache au cou une de ces pierres de meule que font tourner les ânes et qu'on le jette dans le lac. Si ta main te fait tomber dans le péché, coupe-la, car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec une seule main que de garder les deux mains et d'être jeté en enfer dans le feu qui ne s'éteint jamais. Là, le ver rongeur ne meurt point et le feu ne s'éteint jamais. Si ton pied te fait tomber dans le péché, coupe-le, car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec un seul pied que de garder les deux pieds et d'être jeté en enfer. Là, en enfer, dans le feu qui ne s'éteint pas. Là, le ver rongeur ne meurt point et le feu ne s'éteint pas. C'est ton œil qui te fait tomber dans le péché. Jette-le au loin, car il vaut mieux pour toi entrer avec un seul œil dans le royaume de Dieu que de garder les deux yeux et d'être jeté en enfer, où le ver rongeur ne meurt point et où le feu ne s'éteint jamais. En effet, chacun doit être salé de feu. Le sel est utile. Mais s'il perd son goût, avec quoi lui rendrez-vous sa saveur ? Ayez du sel en vous-même et vivez en paix entre vous. Le passage que nous venons de lire, que nous allons étudier ce matin, est en droite ligne de ce que Philippe a pu nous partager au temps de scène. Et je veux croire que Dieu veut nous parler sur ce thème spécial du péché dans nos vies, que Dieu, à travers son esprit, veut intervenir aussi dans nos vies encore ce matin, dans le péché dans lequel nous pouvons peut-être vivre l'un ou l'autre parmi nous ce matin encore. Dans ce texte, Jésus évoque deux attitudes face au péché. Deux attitudes qui ont des conséquences diamétralement opposées. Jésus nous explique que tomber dans le péché va finalement nous mener peu à peu en enfer, dans la Géhenne. On reviendra sur ce mot plus tard. Alors que combattre le péché, vivre une vie de combat contre le péché, est le chemin qui nous mène vers la vie. Tomber dans le péché, c'est direction l'enfer. Combattre le péché dans nos vies, c'est le chemin que Jésus veut que nous menions pour pouvoir accéder à la vie éternelle. Tomber dans le péché, cette expression revient à 4 reprises dans ce texte que nous avons lu. Ou dans d'autres traductions, il est marqué une occasion de chute ou encore un objet de scandale. Au verset 42, cette expression est utilisée pour évoquer le fait de faire tomber dans le péché quelqu'un d'autre. Et à trois reprises, versets 43, 45 et 47, cette expression est utilisée pour évoquer le fait de tomber soi-même dans le péché. Jésus explique donc qu'on peut être une occasion de chute pour quelqu'un d'autre et qu'on peut être une occasion de chute pour nous-mêmes. Et on va voir ces deux aspects séparément. D'abord, Jésus évoque le fait de faire tomber dans le péché l'un de ses petits qui croient en moi. Cela découle du passage précédent que nous avons vu avec Raph la semaine dernière, où Jésus a pris un petit enfant pour le placer au milieu de ses disciples. Mais ces paroles de Jésus à ce moment-là ne font pas forcément référence à un enfant. Quand Jésus parle de ce petit, il parle de ce petit qui croit en moi. Ce n'est pas forcément une référence à un enfant physique, comme on peut le penser. Jésus précise que c'est un petit qui croit en lui. Et les petits qui croient en lui fait donc plutôt référence, cette expression fait donc plutôt référence à un chrétien qui découvre la foi peut-être, ou qui est faible dans la foi dans tel ou tel domaine, et pas forcément un enfant dans la chair. Je vous apprends une grande nouvelle. Nous sommes tous, chacun d'entre nous, des modèles. Que nous voulions l'être ou pas, nous sommes des modèles. Que nous soyons parents ou pas, que nous soyons âgés ou non, nous sommes, quel que soit notre âge, quelle que soit notre culture, quelles que soient nos activités, des modèles. Des bons ou des mauvais modèles, mais nous sommes des modèles. Et pratiquement, en tant que modèles, nous sommes capables, nous pouvons faire tomber des plus petits dans la foi, dans le péché. Soit en les tentant directement, en le poussant au péché. C'est l'exemple, par exemple, de Balaam dans l'Ancien Testament, qui a poussé le peuple d'Israël au péché, en l'incitant à l'idolâtrie, à la débauche sexuelle, alors que le peuple se dirigeait vers le pays promis. On peut aussi faire tomber quelqu'un dans le péché en le tentant indirectement, en manquant d'amour, d'affection, de pardon. C'est l'exemple du père qui irrite ses enfants au lieu de les élever selon le Seigneur, en Éphésiens 6, verset 4. On peut aussi faire tomber un plus petit dans la foi en ne prêtant pas attention aux motifs de conscience de notre frère ou de notre sœur. Car comme le dit Romains 14, verset 23, tout ce qui ne découle pas de la foi est péché. Tout ce qui ne découle pas de la foi est péché. C'est toute la problématique que Paul évoque en 1 Corinthiens 8 à propos des viandes sacrifiées aux idoles, et où il explique que nous sommes appelés à faire tout notre possible pour éviter de faire tomber quelqu'un, quitte même à renoncer à des droits qui seraient légitimes. Si vous voulez en savoir plus sur le texte, c'est un texte que j'ai pu prêcher il y a 3 ans et que vous retrouverez sur le site internet de l'Église. Mais même, nous devons même être prêts à renoncer à des droits légitimes pour éviter de faire tomber un frère ou une sœur. L'avertissement pour celui qui se rend coupable de ce méfait, du fait de faire tomber une tierce personne dans le péché, est particulièrement sévère et particulièrement explicite dans les propos de Jésus. Jésus nous explique qu'il vaut mieux pour lui se jeter dans un lac avec une meule, et pas n'importe quelle meule. À l'époque de Jésus, il existait 2 types de meules. La première comportait 2 pierres circulaires, que vous voyez là à l'image. 2 pierres circulaires d'environ 50 cm de diamètre. Le grain était versé dans un trou au milieu, que vous voyez, sur le dessus. Et on obtenait la farine en tournant manuellement la partie supérieure et la partie inférieure. La deuxième meule, qui est peut-être plus connue, était de construction analogue, mais de dimension beaucoup plus grande. On ne pouvait pas l'actionner à la main. Et pour obtenir la farine en tournant, il fallait confier le travail à un animal, souvent un bœuf ou un âne. Et c'est à ce deuxième type de meule que Jésus fait référence ici. S'attacher à un objet aussi lourd et jeter dans un lac, c'est la noyade assurée, forcément. Il n'y a pas d'autre choix. Ce supplice, d'ailleurs, n'était même pas pratiqué par les Juifs à cette époque, car en plus de l'horreur de la noyade, il comportait le déshonneur suprême d'être privé de sépulture, d'être privé de tombeau, ce qui était inimaginable pour un juif. Qu'est-ce que cela signifie ? Qu'est-ce que Jésus veut dire ? Jésus est-il en train d'enseigner qu'il vaut mieux mourir, même de façon cruelle, plutôt que de faire face à la responsabilité d'avoir entraîné un disciple à pécher ? Et cela, quel que soit le péché ? Est-ce que c'est ça que Jésus veut dire ? Si je fais tomber mon frère dans le péché d'une manière ou d'une autre. Et je suis persuadé que ça arrivait à chacun d'entre nous. Est-ce que ça veut dire que demain, on doit tous se jeter dans un lac avec une meule autour du cou? Est-ce que c'est ça? Je ne pense pas. D'autres textes nous affirment que le pardon et la réconciliation sont toujours possibles. Ça a été l'objet de plusieurs prières ce matin. Le psaume 32, verset 5, par exemple, et David écrit « Je t'ai avoué ma faute, je n'ai plus caché mes torts. J'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. Alors, tu m'as déchargé du poids de ma faute. » Le boulot de Dieu, c'est de nous décharger du poids de notre faute. Et nous pouvons réclamer son pardon. Et même quand nous faisons tomber un frère ou une sœur, nous pouvons réclamer le pardon de Dieu, nous pouvons réclamer le pardon de ce frère et de cette sœur. Mais là, Jésus évoque le fait de quelqu'un qui fait tomber dans le péché une autre personne et qui n'est pas prêt à se repentir, qui n'est pas prêt à demander pardon. Alors il vaut mieux pour lui se jeter dans un lac avec une meule, parce que les conséquences vont être terribles. Ce verset nous démontre à quel point ses disciples, ses enfants, sont précieux aux yeux de Christ, aux yeux de Dieu. Si quelqu'un fait succomber un de ses enfants, Dieu lui rendra un jugement si terrible qu'il n'y a aucune blessure qu'il pourrait subir maintenant, aussi horrible soit-elle, comme une noyade, qui pourrait se comparer à ce qu'il aura à subir au jugement dernier. Jésus veut mettre les points sur les i. Tu touches à mon enfant et tu n'es pas prêt à demander pardon. C'est grave, c'est très grave. Ses disciples sont si précieux aux yeux de Christ qu'il ne peut tolérer qu'on leur fasse mal. Zacharie 2, verset 12 affirme « Celui qui touche à vous » il parle à ce moment-là au peuple d'Israël, on peut s'associer à cela bien sûr. « Celui qui touche à vous, c'est comme s'il touchait à quoi ? À la prunelle de mes yeux. » Dieu prend ce qui est fait contre ses enfants comme si c'était fait à la partie la plus sensible de son œil. Il les aime tellement que le plus léger coup contre eux, contre chacun d'entre nous, est ressenti comme une grande offense de sa part. Quand je regarde mon frère ou ma sœur à côté de moi ce matin, est-ce que je suis conscient à quel point il ou elle est précieux, précieuse aux yeux de Dieu ? Est-ce que je suis prêt à tout mettre en œuvre pour ne pas être une occasion de chute pour mon frère ou ma sœur? À tout mettre en œuvre. C'est les questions que nous pose Jésus avec ce premier cas. Jésus évoque ensuite le fait de tomber soi-même dans le péché. Et pour bien marquer les esprits et souligner l'importance de cet enseignement, Jésus le répète 3 fois. Si ce n'était pas clair, là au bout de 3 fois, c'est... Forcément, ça ne peut pas être plus clair. Il évoque d'abord la main, le pied, l'œil, qui peuvent être des images de nos actions, de notre marche vers où nous allons, et de notre regard, bien entendu, en tant que chrétien. De quelle manière la main, le pied ou l'œil peut nous faire tomber dans le péché? Pour mieux comprendre, on peut aller à un passage parallèle, en Matthieu 5, versets 28 au 29, où Jésus est plus explicite. Pour cela, à propos de l'œil, il dit « Si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Par conséquent, si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le, jette-le au loin, car il vaut mieux pour toi prendre un de tes organes que de voir ton corps entier précipité en enfer. » L'œil peut nous faire tomber dans le péché en se reportant constamment à un objet de convoitise. Dans ce cas-là, une femme. L'exemple biblique le plus frappant à ce propos, c'est celui de David avec Bathsheba, bien sûr. David qui se promenait sur sa terrasse, qui a vu cette femme qui se baignait, et c'était un objet de convoitise pour lui, qui l'a amené à l'adultère, qui l'a amené au meurtre. Aujourd'hui, c'est encore bien plus simple. Il n'y a pas besoin de se promener un soir d'été sur une terrasse pour voir ce que nous ne devrions pas regarder. Simplement au bout de mon index, quand je clique sur ma souris devant mon PC. C'est tellement plus facile, tellement plus simple. Et on se dit qu'il y a tellement de monde qui ne le sait pas. Je suis seul face à mon PC. La pornographie est tellement facilement accessible. Et notre regard peut nous amener au péché à cause de notre convoitise sexuelle dans ce domaine-là. Et de la même manière, mes mains, par les actes qu'elles font, peuvent me mener au péché. Mes pieds, par l'endroit où ils me mènent, peuvent aussi me mener au péché et me faire tomber dans le péché. Mais la conséquence est grave. Jésus est très clair. Le fait de tomber dans le péché, et dans ce cadre-là, tomber dans le péché, c'est tomber de manière récurrente, sans vouloir se repentir. Le fait de tomber dans le péché nous mène vers l'enfer. Et Jésus ne pouvait pas donner un avertissement plus solennel, plus dur que celui-ci. On ne parle pas souvent de l'enfer. Ce n'est pas le sujet le plus à la mode, n'est-ce pas? Et pourtant, Jésus lui en a beaucoup parlé. C'est lui qui en a le plus parlé parmi tous les personnages de la Bible. C'est Jésus qui en a le plus parlé. Ce n'était pas le dada de Paul, de Moïse, de je ne sais qui. C'est Jésus qui a le plus évoqué l'enfer, de tous les personnages de la Bible. Raph avait donné une prédication sur la doctrine de l'enfer il y a quelques années aussi. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site de l'Église. Mais je pense que c'est un bon moment de reparler, d'évoquer juste certains détails. Vous aurez une prédication plus complète sur le site de l'Église et je vous encourage à l'écouter si vous en avez besoin. Avant tout, il faut bien comprendre que l'enfer, ce n'est pas du tout ce qu'on représentait dans le Moyen-Âge, ce n'est pas du tout l'enfer selon Dante, c'est-à-dire un endroit où il y a des diablotins avec des espèces de fourches qui vous donnent des coups aux fesses. Pas du tout ça, l'enfer. Quand Jésus évoque l'enfer, la plupart du temps, et dans ce texte c'est le cas, il n'utilise pas le mot « enfer », il utilise le mot « géhenne ». Et ce mot apparaît 12 fois dans le Nouveau Testament, dont 11 fois dans la bouche de Jésus. C'est un nom qui a une signification bien particulière pour ses contemporains, pour les contemporains de Jésus à son époque. Parce qu'il s'agit tout simplement du nom d'une vallée située au sud-ouest de Jérusalem. Mais cette vallée a une histoire bien particulière. C'est dans cette vallée que des enfants ont été sacrifiés à des divinités païennes, comme Moloch, par des rois idolâtres au temps du royaume de Juda. D'ailleurs, le prophète Jérémie prononcera plusieurs malédictions contre ce lieu, à cause des activités détestables aux yeux de Dieu qui ont eu lieu dans ce lieu. Et à l'époque de Jésus, cette vallée était devenue le dépotoir de Jérusalem, le dépôt d'ordures de la ville, un endroit impur. Et le fait que Jésus désigne l'enfer par ce nom nous donne déjà de bonnes indications de ce qu'est l'enfer. L'enfer, c'est un lieu de déchéance. Certains ont suggéré que l'expression géhenne pourrait signifier non seulement l'aspect désagréable de l'enfer, mais aussi la déchéance de ceux qui y sont. Dans une décharge publique, on jette des déchets. On jette ce qui n'a plus de valeur. Ceux et celles qui seront en enfer n'ont quelque part plus aucune valeur. C'est un lieu de regret. Une décharge, c'est l'un des derniers lieux où on aimerait être, à cause de l'odeur, à cause de la désolation qui peut y régner. Et de la même manière, Christ nous décrit l'enfer comme un endroit triste, un endroit de désolation. Tous ceux qui y seront n'auront plus que des regrets d'avoir rejeté Christ. Christ le dit lui-même en Matthieu 13, versets 49 à 50. Ils les précipiteront dans la fournaise ardente où il y aura quoi ? Des pleurs et d'amers regrets. C'est un lieu aussi de séparation. On jette dans une décharge ce dont on n'a plus envie. On se sépare définitivement de ces choses-là. De la même manière, ceux qui iront en enfer seront à tout jamais bannis de la présence de Dieu. L'enfer est un endroit où l'homme sera à tout jamais éloigné de la présence divine. C'est ce qu'affirme Matthieu 7, versets 22 à 23. « Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront, « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. » Je leur déclarerai alors, « Je ne vous ai jamais connus. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. Je ne vous ai jamais connu. » Certains pourraient se dire que ça va arranger pas mal de monde qui ont toujours tenu Dieu à l'écart de leur vie. D'être séparés de Dieu, ça va arranger du monde. Il ne faut pas oublier que Dieu est la source de tout ce qui est bon. Il est la source de l'amour, de la joie, de la vie. S'éloigner de Dieu, s'éloigner de l'amour, de la joie, de la vie, tout simplement. Et enfin, l'enfer, c'est un lieu de tourment. Jésus présente ce lieu comme un endroit où le ver rongeur ne meurt jamais. Un ver, c'est censé mourir à un moment donné. Où le feu ne s'éteint jamais. Un feu, à un moment donné, quand il n'y a plus de comburant, ça doit s'éteindre normalement. Non, Le verre ne meurt jamais, le feu ne s'éteint jamais. Dans la géhenne, un feu était entretenu en permanence pour brûler tous les détritus. Continuellement, la fumée nauséabonde des détritus qui brûlaient se répandait depuis cet endroit. C'est aussi ce qu'affirme Jésus à propos de l'enfer dans ce passage. Le ver rongeur, qui est un tourment intérieur, et le feu éternel, qui est un tourment extérieur, illustrent de façon saisissante à quel point l'enfer sera un lieu de tourment, un lieu de condamnation éternel et conscient des personnes. Jésus nous avertit que l'enfer est le pire lieu qu'il soit. J'espère que cette courte description de l'enfer nous fait froid dans le dos. Parce que c'est le but de Jésus. Jésus ne veut pas qu'on se trompe sur ce qui va coûter à celui ou celle qui reste dans le péché et qui se détourne de lui. C'est un lieu horrible, un lieu de déchéance, de séparation, de tourment, de regret. Et si Christ nous décrit l'enfer d'une manière si dure, mais réelle, c'est pour nous avertir du danger que nous courons si nous nous éloignons de lui, si nous le rejetons, si nous décidons de rester dans notre péché. Comme nous venons de le voir, Jésus nous avertit des conséquences que peut avoir le fait de tomber dans le péché. Mais il affirme aussi qu'il y a une autre attitude possible face au péché. Il nous encourage à combattre le péché, à combattre le péché. Et Jésus répète à 3 reprises comment combattre le péché de notre vie. Ces mots sont durs. Il faut couper sa main, couper son pied, arracher son œil. Le remède que propose Jésus est radical. Jésus nous demande d'être radical dans notre combat contre le péché. Ce n'est pas des demi-mesures. Où en sommes-nous dans ce combat? Je vois peu de manchots, d'unijambistes ou de borgnes ce matin. Comment se fait-il que dans notre société actuelle, où nous sommes constamment confrontés à la convoitise des yeux, chacun d'entre nous encore ce matin a ses 2 yeux. Est-ce que cela veut-il dire qu'aucun d'entre nous est prêt à être radical, comme Jésus le demande, notre combat contre le péché? Je ne crois pas. Pris à la lettre, les paroles de Jésus semblent être un langage pour fanatiques religieux. Non, ces paroles de Jésus ne doivent pas être prises à la lettre, pour 2 raisons en particulier. D'abord, une mutilation irait à l'encontre de l'enseignement biblique sur le corps. Le corps est vu comme l'habitation même du Saint-Esprit par la Bible. Le corps a droit à des égards. Surtout, les mains, les pieds, les yeux ne peuvent pas commettre de péché par eux-mêmes. Après tout, un manchot, un unijambiste ou un borgne est tout autant capable de commettre un péché qu'une personne qui a tous ses membres. Ça ne change rien. J'aurais beau m'arracher une main, un pied ou un œil, cela ne résoudrait pas le problème du péché dans ma vie. Car le péché ne provient pas d'abord des mains, du pied ou de l'œil. Le péché provient de là, de notre cœur, de notre esprit, de nous-mêmes. C'est ce que Jésus soulignait dans un autre texte de Marc, en Marc 7, qu'on a déjà vu, versets 21-23. C'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que proviennent les pensées mauvaises, l'immoralité, le vol, le meurtre, les adultères, l'envie, la méchanceté, la tromperie, le vice, la jalousie, le blasphème, l'orgueil et toutes sortes de comportements insensés. Tout ce mal sort du dedans et rend l'homme impur. S'il ne s'agit pas de combattre le péché en s'amputant physiquement, alors de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une amputation morale. La solution radicale de Jésus que Jésus nous encourage à prendre dans notre combat contre le péché, c'est de couper l'occasion de chute, c'est-à-dire de se séparer de ce qui nous entraîne dans le péché. Ce que Jésus enseigne, c'est que ce qui produit l'occasion de commettre le péché doit être coupé, éloigné. Alors peut-être vous allez vous dire, et moi le premier, ce que je me disais, finalement c'est bien. Je ne vais pas avoir besoin de me couper la main. C'est peut-être plus simple de s'amputer moralement. C'est faux. Jésus est radical, je vous l'ai dit. Et il n'est pas plus facile de s'amputer moralement que de s'amputer physiquement. Ça demande beaucoup. Cette amputation morale demande d'être prêt à se faire mal. Ça demande à être prêt, d'être prêt à se faire mal. Il faut se séparer de ce qui nous fait tomber dans le péché, quelle que soit son importance dans notre vie, ou l'attachement que nous y portons. Et ne nous y trompons pas. Souvent, nous accordons beaucoup d'importance, nous sommes très attachés à ce qui nous fait tomber dans le péché. Et c'est douloureux de s'en séparer. Cela peut être des relations d'amitié, voire plus. Combien d'entre nous, peut-être, au moment de notre conversion, nous avons dû arrêter certaines relations, et même peut-être des relations d'intimité avec quelqu'un d'autre. Et ça fait mal. Et Jésus nous demande d'être radical. Ça demande aussi d'arrêter des habitudes que nous entretenons depuis trop longtemps. Et c'est dur. D'arrêter de fréquenter des lieux que nous ne devons pas fréquenter. Des émissions télé que nous regardons, que nous ne devons pas regarder. Il ne faut pas l'oublier. Nous péchons parce qu'il y a un plaisir derrière le péché. Il ne faut pas se leurrer. Nous péchons parce qu'il y a un plaisir derrière le péché. Et être prêt à renoncer au péché, ça veut dire être prêt à renoncer à un certain plaisir. Et donc, ça fait mal. Et ce n'est pas évident. Ce n'est pas simple. Loin de là. Mais Jésus affirme que si un plaisir est une occasion de chute, alors même le pire, comme une amputation physique, est préférable au fait de rester séparé de Christ. Il vaut mieux s'amputer physiquement que de vivre un plaisir dans un péché et d'être séparé de Christ. C'est le message de Jésus. Aucun plaisir illégitime ne vaut le risque de l'enfer. Deuxième chose, cette amputation nous demande d'être prêt aussi à nous faire violence. Il faut s'arracher l'œil et le jeter au loin. Il ne s'agit pas d'une opération où on va à l'hôpital, une opération chirurgicale avec un chirurgien, tout ce qui va bien. Non. Il y a une certaine violence dans les propos de Jésus. Il faut s'arracher l'œil et jeter au loin. Je ne sais pas si on peut imaginer ce que c'est. Il y a de la violence. Il faut se faire violence. Il y a une intensité émotionnelle très forte. C'est un acte contre nature. Il faut se faire violence moralement, mentalement, pour se couper ainsi la main ou s'arracher l'œil. Cela demande de la conviction, de la volonté pour faire barrage au péché. Et ça ne se fait pas seul, tout seul, ça ne se fait pas facilement. Il faut de la conviction, il faut de la discipline, il faut un combat que nous devons mener contre le péché. D'une manière générale, je crois que si nous sommes honnêtes, nous découvrirons assez rapidement ce que nous devons amputer dans nos vies. Ce n'est pas forcément très compliqué de trouver qu'est-ce qui est une occasion de chute dans nos vies. Je crois qu'on se connaît suffisamment pour savoir qu'est-ce qui est une occasion de chute dans nos vies, qu'est-ce qui est le péché récurrent qui me plombe. Ce n'est pas difficile de trouver ça. C'est même presque trop facile. Par contre, la vraie difficulté, c'est la question suivante. Est-ce que nous voulons vraiment nous en séparer? Est-ce que nous sommes prêts à nous faire mal, à nous faire violence pour le combat dans nos vies contre le péché? Quand est-ce que la dernière fois, ça m'a fait mal de suivre Jésus-Christ? Quand est-ce que la dernière fois, ça a été dur de suivre Jésus-Christ? Si ça n'a jamais été difficile pour vous de suivre Jésus-Christ, alors vous devriez venir prêcher à ma place. Si ça n'a jamais été difficile pour vous de suivre Jésus-Christ, je crois qu'il y a un problème. C'est que vous n'êtes peut-être pas assez conscient du péché et du combat que vous devez mener contre le péché. C'est toute l'occasion de ce que Philippe nous a partagé à travers sa prière. Du combat à mener contre le péché et de la repentance à chercher auprès du Christ. Ce combat contre le péché est avant tout individuel. mais c'est aussi, je crois, un combat d'Église. Si on regarde l'image du corps que nous formons en tant qu'Église, en tant qu'Assemblée, il s'agit aussi d'une invitation à ne pas tolérer le péché flagrant d'un de ses membres. Cela nous pose une autre question. Est-ce que dans notre Église, à quel point notre combat contre le péché est un combat d'Église ? Est-ce que nous avons des frères et des sœurs qui sont proches de nous dans ce combat ? Est-ce que nous savons nous soutenir les uns les autres dans ce combat contre le péché ? Voilà ce qu'écrit Émile Nicole, un théologien, à propos de ce passage. Nous qui avons tendance à situer la vie de la foi dans le domaine des médecines douces, où on parle d'épanouissement, d'équilibre, d'harmonie, d'intégrité du corps, nous voici plongés dans la chirurgie d'urgence, la chirurgie de champ de bataille. On coupe, on arrache des pieds, des mains, des yeux, pour sauver des hommes de la mort. Malgré cela, j'ai comme l'impression que cette parole très forte ne nous impressionne pas beaucoup, ne nous impressionne pas assez. Nous sommes à ce point persuadés que la vie de la foi va de pair avec l'épanouissement de la personne, que nous n'arrivons pas à admettre l'idée d'une amputation. La chose est dite, mais elle nous laisse incrédules. Ce n'est pas possible. Et puis la menace du feu éternel ne nous concerne pas. Si nous sommes à Christ, n'avons-nous pas l'assurance du salut ? N'avons-nous pas, par la grâce de Dieu, la possibilité d'entrer au ciel avec nos deux pieds, nos deux mains et nos deux yeux ? Pourquoi parler de mutilation ? Lorsque notre bonne conscience chrétienne et notre doctrine nous permettent ainsi de neutraliser des paroles aussi fortes de Jésus, il est temps de nous poser des questions sur notre bonne conscience, sur notre doctrine et surtout l'usage que nous en faisons. Quelle est cette doctrine qui a pour effet d'ôter toute sa force à la parole du Maître ? Comment pouvons-nous associer l'assurance du salut à l'indifférence envers ces paroles, envers des paroles si fortes que le Seigneur nous adresse pour notre salut ? Nous avons évoqué la grâce ce matin à plusieurs reprises, et nous avons raison de l'évoquer. Nous avons tort d'évoquer la grâce en pensant que c'est une excuse au péché. C'est une erreur énorme. C'est l'erreur que combat Paul en Romains 6 notamment. La grâce n'est nullement une excuse pour se complaire, pour tomber, pour vivre dans le péché. Jamais. Jamais. La grâce est plutôt ce que Dieu nous donne pour pouvoir vivre ce combat contre le péché. Sa grâce n'a pas pour but de nous éviter des résolutions difficiles. Sa grâce n'a pas pour but de nous faire mener une vie simple et facile où on peut faire ce qu'on veut. Non. Elle a pour but de rendre possible les sacrifices, les amputations. Elle a pour but de rendre possible le combat contre le péché. Parce qu'elle nous permet de retourner au pied du Maître. Le combat contre le péché que la grâce de Dieu nous permet de mener nous donne une autre perspective, exactement l'opposé de l'enfer, la perspective de la vie. Et là encore, comme pour l'enfer, l'image populaire du paradis, où un petit ange se met sur un nuage avec une petite harpe et on joue. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de joueurs d'harpe aujourd'hui, mais bon, ce n'est pas mon cas. Non, c'est, ça n'a rien à voir, ce n'est pas ça, la vie éternelle. C'est en fait l'exact inverse de l'enfer. La vie éternelle, c'est un lieu de gloire et pas de déchéance. Paul écrit en Philippiens 3, verset 21, « Dieu transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux, par la puissance qui lui permet aussi de tout soumettre à son autorité. Nous aurons un corps de gloire pour vivre éternellement. Nous ne serons plus dans la déchéance, mais dans la gloire céleste de Dieu. » C'est un lieu de consolation et non de regret. Apocalypse 21, verset 4, « Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Le paradis sera un endroit parfait, où nous serons le plus proche possible de Dieu, proche de la source de vie, de l'amour. Il n'y aura plus de tristesse, tout ce qui est mauvais, ce qui nous rend malheureux, aura disparu. C'est un lieu de communion et non de séparation. Nous aurons le privilège immense de vivre avec Dieu, d'être face à face avec Dieu. Apocalypse 21, verset 3, « Dieu habitera avec nous. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Nous serons enfin avec Dieu, enfin, auprès de lui. » C'est un lieu de félicité et non de tourment. Le péché et toutes ses conséquences indésirables auront disparu. La vie sera une bénédiction inimaginable, éternelle. Ce sera un royaume où régnera un bonheur parfait, loin de toute source de souffrance. Nous prendrons plaisir pleinement dans la présence de Dieu. Ça, c'est la vie qui nous attend. Jésus termine son discours, verset 49, en affirmant que chacun d'entre nous est salé de feu. Le feu et le sel sont deux agents purificateurs. Le feu détruit les impuretés, tandis que le sel les empêche d'apparaître. Et Dieu veut accomplir son œuvre de purification dans chacun d'entre nous, en extirpant de nous le péché qui habite, pour qu'on puisse conserver notre saveur de disciple de Christ, afin de pouvoir amener d'autres âmes à Dieu. Parce que si nous n'avons pas cette saveur de disciple de Christ, nous serons incapables d'amener d'autres vers lui. Pour que cette œuvre de purification puisse être efficace et que nous gardions toute notre saveur, Jésus nous encourage à un combat radical contre le péché. Il ne s'agit peut-être pas de se couper une main, ou un pied ou de s'arracher un œil physiquement, mais il s'agit de se faire violence, de se faire mal pour extirper le péché dans nos vies. Et nous avons le privilège d'avoir la grâce de Dieu, le pardon offert par Dieu, pour nous tourner vers lui, pour réclamer son pardon, réclamer son aide et son soutien à travers son Esprit Saint qui vient habiter en nous. Et il ne vient pas habiter en nous pour se tourner les pouces. Il vient habiter en nous pour que nous puissions mener ce combat contre le péché. Que Dieu nous parle encore ce matin, quelle que soit notre situation, quel que soit le péché auquel nous sommes confrontés, nous sommes appelés à un combat. Est-ce que nous sommes prêts à mener ce combat ? Amen.